France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Spécialiste d'anthropologie génétique, ses recherches visent à mieux comprendre l'évolution des systèmes de parenté et des structures familiales au fil du temps. Raphaël Schex est notre invité. Au cours des 10 à 15 dernières années, cette discipline a d'abord permis d'éclairer l'histoire démographique d'Homo sapiens. Mais parce que la culture façonne aussi la diversité génétique humaine, l'ADN est devenu un formidable outil pour retracer les organisations sociales, les filiations et les modèles familiaux. La chercheuse a notamment enquêté sur les causes de la chute de la diversité génétique du chromosome Y qui s'est produit il y a 5000 ans. Que raconte notre génome de notre histoire sociale et de la place respective des femmes et des hommes dans nos sociétés? Raphaël Schex, des airs de famille. Et Raphaël Schex, bonjour. Vous êtes anthropologue généticienne au CNRS et au MNHN et vous travaillez au Musée de l'Homme. Et un grand merci à vous d'être là avec nous, en direct, dans nos studios à France Culture. Merci. Et puis merci également à vous d'être là à l'écoute, en direct ou à toute heure, en podcast. Alors nous aussi, nous restons à votre écoute sur Blue Sky. On partage pour vous des liens, des repères et surtout, on prête l'oreille à vos remarques. N'hésitez pas, c'est sur notre compte @sciencesqfd. Alors, quelle trace l'organisation sociale laisse-t-elle dans la diversité génétique des populations humaines? Quels sont vos outils pour analyser ces signatures? Et quels sont vos objectifs de recherche? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais pour commencer, avec l'ADN, on peut faire une histoire des systèmes de parenté, mais comment étudier la filiation? On commence avec la voix de la grande Françoise Héritier, c'est notre première archive.
La filiation, c'est simplement la transmission selon une chaîne d'un certain nombre de propriétés, que ce soit des propriétés physiques ou des propriétés psychiques, morales ou autres. Par exemple, chez nous, nous avons une filiation qui est apparemment de type bilatéral, mais avec une inflexion patrilinéaire très marquée. Nous héritons du nom de notre père, par exemple. Mais on peut hériter des biens du côté du père ou du côté de la mère. Et en ce qui concerne l'hérédité psychique, on hérite des caractères, si vous voulez, du côté du père et de la mère. Je ne veux pas dire pour autant que dans les sociétés primitives, l'hérédité biologique marche selon des voies de filiation. Mais l'hérédité psychologique telle qu'elle est perçue, imaginée, idéalisée par les gens, elle peut ne passer que selon un certain nombre de lignes de filiation. Bon, alors nous avons de la sorte des sociétés qui sont totalement patrilinéaires, c'est-à-dire où l'hérédité, la transmission du nom, la transmission des pouvoirs, la transmission des biens passe uniquement en ligne paternelle, par exemple. Les sociétés Mossi ou Samo, par exemple, ou Dogon ou Ubo sont des sociétés patrilinéaires. C'est-à-dire que quand vous naissez dans une famille, ce n'est pas à proprement parler une famille, c'est ce qu'on appelle un lignage. C'est l'ensemble des personnes qui sont rattachées les unes aux autres par l'intermédiaire d'hommes uniquement. Alors à la fois, le lignage comporte des morts, des vivants et des gens à naître, le lignage. Mais le lignage, c'est uniquement les gens qui sont rattachés les uns aux autres par l'intermédiaire des hommes. Ce qui revient à dire que les femmes appartiennent à leur lignage de naissance parce qu'elles sont rattachées par leur père, à leurs frères, oncles, etc. Mais les enfants des femmes n'appartiennent pas à ce lignage. Par contre, les enfants des hommes appartiennent par droit au lignage patrilinéaire. Et un lignage patrilinéaire, c'est un ensemble de droit sur la terre, c'est donc un nom qui se transmet de cette façon-là et c'est aussi une localisation géographique précise la plupart du temps.
Voilà l'anthropologue, ethnologue et militante féministe Françoise Héritier dans l'émission Les Nuits Magnétiques sur France Culture diffusée en 1978. Alors Raphaël Schex, comment ces mots font-ils écho en vous ?
Déjà, j'adore. C'est toujours émouvant d'écouter Françoise Héritier, qui a été une grande penseuse à la fois des systèmes de parenté, mais aussi de la domination masculine, et qui a été assez pionnière, en tout cas en France, pour montrer que la domination masculine se trouvait inscrite au cœur même des systèmes de parenté. Elle a effectivement beaucoup travaillé sur ces notions de lignage patrilinéaire, qui, comme on pourra peut-être en rediscuter un peu plus tard, sont associés, enfin ce sont des systèmes qui sont associés à des normes de genre en général plus défavorables aux femmes que les normes de genre dans les systèmes matrilinéaires. Mais elle a aussi montré que les systèmes de parenté portaient la trace de la domination masculine, y compris dans ce qu'elle appelait la terminologie de parenté, donc la manière de s'appeler les uns les autres au sein d'une famille, père, mère, tonton, grand frère, etc. Avec, chez certains systèmes patrilinéaires, une terminologie qui faisait que, qui fait toujours d'ailleurs que les femmes sont les cadettes des hommes, y compris quand elles appartiennent à la même génération. Et donc, voilà, une manière, une inscription d'une domination masculine, y compris dans ce qu'elle appelait la charpente des systèmes de parenté, à savoir la terminologie.
Voilà, on va tout de suite éclaircir justement des mots qu'on a entendus dans cette archive et qu'on vient tout de suite de prononcer. Hein, système matrilinéaire, système patrilinéaire. Il faut éclaircir ces termes qu'on va employer tout au long de cette heure. Un système patrilinéaire, qu'est-ce que ça recouvre ?
Alors, je vais employer une définition un tout petit peu plus stricte que celle que vient d'employer Françoise Héritier, où elle utilise le mot patrilinéaire pour parler de transmission, de droit, de devoir, d'héritage, d'appartenance à un groupe. Moi, j'aime bien utiliser des mots qui sont distincts, et on essaie de parler de filiation patrilinéaire quand les enfants appartiennent au groupe, donc au lignage, au clan du père. On parlera, quand il y a un héritage, par exemple, transmis par le père au fils, on parlera d'héritage patrilinaire. Mais pour ce qui est de la filiation, on le réserve vraiment à l'affiliation des enfants à des groupes de parenté. Et effectivement, ce système patrilinéaire, selon lesquels les enfants sont rattachés au lignage, au clan du père, représente environ 47% des sociétés actuelles. Et notre système à nous, je sais qu'on a du mal à le croire, n'est pas un système patrilinéaire. On parle d'un système bilatéral, comme Françoise Héritier l'a très bien dit, avec effectivement, jusque récemment, le nom passé exclusivement en ligne paternelle. Donc on parlait d'inflexion patrilinaire, mais ça ne fait pas de nous, de notre société, une société patrilinaire au sens de l'ethnologie, puisque dans une société patrilinaire, il y a ses lignages et ses clans qui remplissent des fonctions diverses et variées, qui peuvent être extrêmement importantes parce qu'il y a des sociétés où il n'y a pas de pouvoir centralisé, il n'y a pas de gouvernement, et c'est précisément ces groupes patrilinaires qui vont être les unités sociopolitiques de référence. Et nous, nous n'avons pas ces lignages et ces clans. Les enfants appartiennent de manière symétrique à la famille maternelle et paternelle. On n'est pas rattaché de manière plus forte aux parents du côté du père ou du côté de la mère.
Voilà, donc ces systèmes patrilinéaires, en tout cas la femme n'est qu'un réceptacle. Vous dites, nos systèmes bilatéraux, qui sont les nôtres aujourd'hui, ça représente à peu près 37% des systèmes d'organisation sociale des populations humaines actuelles. Et il y a ces systèmes matrilinéaires. Alors là, de quoi s'agit-il ?
Donc, c'est pas tout à fait le symétrique. On verra justement pour plein de raisons, et notamment à cause de la domination masculine, les systèmes matrilinaires ne sont pas le symétrique exact des systèmes patrilinaires, mais ce sont des systèmes dans lesquels les enfants sont rattachés au clan de la mère, au lignage, au clan de la mère. Et voilà, et donc c'est la mère qui, effectivement, vous parliez du fait que dans les systèmes patrilinaires, les femmes sont des réceptacles. C'est le cas dans certaines populations patrilinaires, comme par exemple les Baouya, où c'est le père qui contribue, qui va transmettre le sperme, la chair, le sang de son enfant, et la mère n'est qu'un réceptacle. Dans d'autres sociétés patrilinaires, en fait, il y a une contribution plus importante des hommes à la fabrication des enfants. Par exemple, ils transmettent les os qui sont pérennes, qui vont durer, alors que la mère transmet la chair qui est putrescible. Voilà, donc on a quand même un rôle plus important pour le père que pour la mère dans la fabrication des enfants. Et à l'inverse, dans les sociétés matrilinéaires, qui sont donc minoritaires, environ 15% des sociétés humaines sont matrilinaires, et en fait probablement moins à l'heure actuelle parce que elles sont en grande partie en train de disparaître. Ces sociétés matrilinaires, donc les enfants appartiennent au clan de la mère. Et dans ces sociétés, souvent, le rôle de la mère dans la fabrication des enfants est supérieur à celui du père. Par exemple, les Jarai que nous avons étudiés en Asie du Sud-Est, c'est vraiment la mère qui va fabriquer l'enfant et le père n'est qu'un catalyseur qui, par le coït, déclenche cette fabrication de l'enfant.
Alors attention, un système matrilinéaire, ça ne veut pas dire un système matriarcal.
Tout à fait. C'est là où on voit que les systèmes matrilinéaires ne sont pas le symétrique des systèmes patrilinéaire. Ça, on s'en est rendu compte d'ailleurs dès notre mission de reconnaissance en Asie du Sud-Est. Moi, je me réjouissais après une thèse sur les populations d'Asie centrale, donc patrilinéaire, patrilocale, donc patrilinaire, les enfants appartiennent au clan du père, patrilocale, la femme va vivre chez son mari, par exemple les Kazakhs, les Turkmènes, les Karakalpaks. Donc on arrive en Asie du Sud-Est, justement, j'avais choisi cette région du monde parce qu'il y a ces 15% de population matrilinéaire, qui sont en plus matrilocales, donc le mari vient vivre chez sa femme, les enfants porte le nom de la mère, qui est le nom du clan. C'est la mère, dans la façon de penser de ces sociétés, qui fabrique l'enfant. Donc moi, je m'attendais à rencontrer des femmes fortes. Voilà. Et on a la chance, au moment où on faisait une mission de reconnaissance pour essayer de voir quel village on pouvait inclure dans l'étude, on tombe sur un sacrifice de buffle dans un village Jarai. Et on s'arrête pour observer ça, parce que c'était une chance de tomber là-dessus. Et après la mise à mort du buffle, ce qui m'a vraiment impressionnée, c'est que les hommes se sont mis à genoux, ont commencé à manger ce buffle, pendant que les femmes attendaient. Elles ont attendu environ 2 heures, leur petit bol posé devant elles, d'abord debout, ensuite accroupies, vraiment à attendre, la tête posée sur les mains, à regarder les hommes à une quinzaine de mètres. Et voilà, et très clairement, les sociétés matrilinéaires ne sont pas, en tout cas, ne sont pas des sociétés matriarcales.
Oui, ce sont les hommes qui ont toujours le dernier mot, même dans ces systèmes-là. Vous venez d'évoquer une autre notion importante, les notions de résidence matrilocale, l'homme qui va chez la femme, ou les patrilocales, c'est la femme qui va chez l'homme, et aussi cette résidence néolocale, qui est plutôt la nôtre dans nos systèmes européens.
Tout à fait, qui est la nôtre. En général, on s'installe avec son conjoint dans un nouvel endroit, donc d'où ce mot de néo-local, endroit qui dépend souvent de là où on a une activité professionnelle, donc qui est différente en général de celle d'où nos parents d'un côté ou de l'autre habitent. Et ce système-là, en fait, ne représente que 5% des sociétés humaines actuelles. C'est un cas qui est assez rare. Et en fait, notre système de parenté à nous, avec notre filiation bilatérale qui représente 37% des sociétés humaines, notre résidence qui est présente dans 5% des sociétés humaines, on voit bien qu'on a un système de parenté qui ne fait pas du tout l'unanimité, qui n'est pas universel. Et c'est ça qui est difficile à comprendre parfois. On peut penser que notre manière de faire famille est bien naturelle, mais en fait, c'est régi par des règles culturelles qui varient selon les populations humaines.
Ce sont des constructions sociales et c'est ce qu'on va voir tout au long de cette heure. Alors, la majorité des populations humaines actuelles, comme vous voulez dire, c'est donc une descendance patrilinéaire. Vous, l'un de vos objectifs de recherche est de comprendre depuis quand une telle règle est répandue parmi les populations humaines.
Tout à fait. 64% de patrilocalité, 47% de patrilinéarité. Depuis quand c'est comme ça?
Eh bien, on va voir justement quelle est l'influence des systèmes de parenté sur la diversité génétique et quels ont été vos travaux en Asie centrale et en Asie du Sud-Est. On y vient.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
Que dit notre génome de l'évolution de nos systèmes familiaux? C'est la question que l'on pose en direct sur France Culture à l'anthropologue généticienne Raphaël Schex, que nous recevons tout au long de cette heure. L'ADN est un outil d'archive au service de la reconstruction de l'histoire des structures familiales humaines. Parlons maintenant de vos travaux, de votre parcours, Raphaël Schex. Vous avez fait votre thèse sous la direction d'Evelyne Heyer, que l'on entendra en fin d'émission, une thèse sur des populations matrilinéaires d'Asie centrale, puis vous vous êtes particulièrement intéressé aux populations asiatiques, notamment celles d'Asie du Sud-Est. Alors, pour quelles raisons ?
Donc justement, oui, effectivement, j'ai eu cette chance de faire cette thèse sous la direction d'Evelyne Heyer, ainsi que Frédéric Austerlitz et, pour une petite contribution aussi, Louise Quintana Murci. J'avais étudié justement ces systèmes patrilinéaires. Et on s'était aperçu, on va y venir, que ce sont des systèmes qui perdent de la diversité du chromosome Y. Donc ils laissent leurs traces dans la diversité génétique. Ce qui ouvre de nouvelles perspectives, qui est de retracer l'histoire des systèmes de parenté dans les populations humaines. Et pour asseoir un peu cette approche, j'avais très envie d'aller étudier justement les signatures laissées par les systèmes matrilinéaires dans la diversité génétique. Et donc, quand j'ai eu mon poste de chercheuse au CNRS, j'ai eu cette envie de monter un projet qui consisterait à comparer les signatures laissées par des systèmes matrilinéaires, patrilinéaires, bilatéraux, avec des règles de résidence variées. Et pour cela, j'ai cherché une région du monde où ces différents systèmes sont représentés. Et effectivement, l'Asie du Sud-Est, c'est une région de grande diversité de systèmes de parenté, ce qui est totalement différent de ce qu'on a en Europe, où on est très largement bilatéraux, néolocaux. Ou éventuellement patrilocaux, parce qu'on est néolocaux depuis peut-être un siècle ou deux, mais avant ça, il y avait sans doute de la patrilocalité. Je me suis intéressée à cette région de grande diversité de systèmes de parenté, mais qui avait un autre avantage, qui était qu'on avait des sociétés qui avaient donc des systèmes de parenté différents, mais les unes à côté des autres, dans un même environnement, donc des populations qui vivent dans des petites montagnes, qui font de la culture, de la riziculture sur donc des populations qu'on appelle d'horticulteurs. Et c'était très important de mettre les autres variables culturelles à égalité. Donc, et notamment, je les ai aussi sélectionnées dans une famille linguistique particulière qu'on appelle la famille austro-asiatique, qui est la plus ancienne famille linguistique d'Asie du Sud-Est. Tout ça pour mettre les autres facteurs culturels à égalité et avoir juste des variations de systèmes de parenté. C'était vraiment comme un laboratoire vivant et humain pour mesurer ces traces laissées dans la diversité génétique par ces systèmes de parenté.
Voilà, l'Asie du Sud-Est vous a sauté aux yeux comme étant donc cette région d'intérêt avec plusieurs systèmes regroupés dans une même zone géographique, pas trop éloignés les uns des autres. Mais alors, comment ça s'est passé concrètement sur place, votre terrain de recherche ?
Ben, concrètement, déjà, on passe beaucoup de temps à obtenir les autorisations éthiques. Ça peut prendre des années parfois. Donc là, j'ai mis environ un an et demi auprès du Laos et du Cambodge. Et ensuite, monter une équipe interdisciplinaire, puisque j'ai travaillé avec un linguiste, Gérard Diflotte, un biodémographe, Samuel Pavard, des anthropologues, Frédéric Bourdier et Olivier Évrard. Et tous ensemble, donc, on a été de village en village. On a été dans environ 60 villages du Laos et du Cambodge, appartenant à 12 populations ayant des systèmes de parenté différents. Donc, quatre populations patrilinaires, quatre populations matrilinaires, quatre populations bilatérales. On arrive dans ces villages quand on a toutes les autorisations, évidemment avec des interprètes, même si j'avais appris un petit peu le khmer, mais c'était loin d'être suffisant. On présente le projet pour savoir si les gens de ce village sont d'accord pour participer à cette étude. Et si c'est le cas, on revient le lendemain. Avec à la fois nos consentements éclairés, on est obligé de leur faire signer un papier, étape un peu désagréable mais nécessaire pour pouvoir ensuite publier les données génétiques. On revient avec des questionnaires où on va les interroger. On a interrogé un peu plus de 500 familles. On leur a posé toutes sortes de questions sur donc quel est votre clan, quelle est votre langue de naissance, quel est votre village de naissance. La même chose pour l'époux ou l'épouse, pour leurs parents, leurs grands-parents, leurs frères et sœurs. Donc on a récolté de l'information pour environ 7000 individus, information comme ça ethnodémographique, et on a nos tubes à essai.
Les tests salivaires.
Les fameux tests salivaires. Donc on a rapporté, je crois, au total environ 6 litres de salive qu'on a extrait ensuite l'ADN, en tout cas pour la partie du Cambodge à Phnom Penh. Et voilà, donc ensuite on ramène l'ADN en France et on peut produire des données génétiques, toutes sortes de données génétiques.
Mais alors justement, avec ces 6 litres de salive, avec quel marqueur génétique vous testez ces différentes organisations?
Alors, il y a deux marqueurs génétiques qu'on aime particulièrement pour étudier ces filiations patrilinéaires, matrilinéaires. C'est le chromosome Y qui est transmis par le père à son fils, les femmes n'en ont pas, et l'ADN mitochondrial qui est transmis par la mère à ses enfants. Alors pourquoi c'est la mère qui transmet cet ADN mitochondrial? Parce que au moment de la fécondation, donc l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent. Le spermatozoïde est arrivé jusqu'à l'ovule grâce à l'énergie produite par une petite mitochondrie, parce que la mitochondrie dans les cellules, c'est ce qui permet de fabriquer l'énergie. Et quand il va y avoir la fécondation, seul le matériel génétique du spermatozoïde rentre dans l'ovule, la mitochondrie du père reste à l'extérieur, et donc la mitochondrie de l'enfant sera les mitochondries de la mère. Et donc, il y a dans ces mitochondries, donc c'est l'ADN mitochondrial, c'est le seul morceau d'ADN qui n'est pas dans le noyau de la cellule. Les cellules ont un noyau, mais c'est dans le cytoplasme, donc il y a ces mitochondries, donc des petites énergies, des petites usines à énergie, et dedans il y a un petit ADN circulaire qui a donc cette propriété d'être transmis en lignée maternelle, et c'est vraiment bien fait qu'on ait comme ça un petit chromosome Y transmis par le père, un petit ADN mitochondrial transmis par la mère, parce que ça va nous permettre justement de comprendre comment ce sont deux marqueurs en tout cas très intéressants pour trouver ces traces laissées par ces organisations patrilinéaire, matrilinéaire, matrilocale, patrilocale, dans la diversité génétique.
Donc on a deux systèmes principaux de filiation qu'on vient de décrire, mais vous avez aussi compris que c'était plus complexe que ça au sein des systèmes patrilinéaires. Il y avait aussi des sous-systèmes, des systèmes patrilinéaires dits segmentaires. Alors c'est quoi exactement et comment ça marche en fait ces sous-systèmes?
Donc c'est un gros mot et c'est pas très grave. Il fait un peu peur, mais c'est pas
non,
grave.
Même pas peur.
En fait, voilà, il y a différents types de patrilinéarité, et j'en ai étudié deux, celle d'Asie centrale, dans lesquelles les populations, donc les individus appartiennent à un lignage, le lignage du père, qui fait partie d'un clan, le clan du père, et qui fait partie d'une tribu du père. Et les gens sont donc passionnés dans ces populations d'Asie centrale, sont passionnés de généalogie. Les hommes ont un petit livre, un petit carnet dans la poche intérieure de leur veste avec leur généalogie sur un grand nombre de générations. Ils disent que tous les individus d'un même lignage partagent un ancêtre commun en ligne paternelle, tous les individus d'un même clan également, tous les individus d'une même tribu également. Et on a voulu utiliser justement l'ADN et notamment le chromosome Y pour voir si ces ancêtres étaient des ancêtres mythiques ou également des ancêtres génétiques. Et donc on a été mesurer dans quelle mesure les individus d'un même lignage et d'un même clan et d'une même tribu partage un chromosome Y qui se ressemble et qui serait donc bien le chromosome Y hérité de leur ancêtre commun paternel. Et on a effectivement validé cette hypothèse en Asie centrale, avec effectivement les individus, les hommes d'un même lignage et d'un même clan portent bien un chromosome Y qui se ressemble. Donc il y a bien une parenté génétique par le chromosome Y qui prouve que ces hommes sont effectivement descendants d'un ancêtre commun en ligne paternelle. Et ce sont donc ces systèmes-là que j'appelle segmentaires, donc dans le sens où chaque tribu est subdivisée en segments, les clans, chaque clan est resubdivisé en lignages, et au sein de ces lignages et de ces clans, il y a cette forte parenté génétique entre les hommes en termes de chromosome Y.
Et voilà, et ces systèmes patrilinéaires stricts et segmentaires sont vraiment des machines à faire disparaître la diversité génétique, et ça on y reviendra en deuxième partie d'émission. Donc on vient de voir, il est possible d'étudier plusieurs composantes de l'organisation sociale, comme les règles de filiation, les règles de résidence, mais aussi les règles d'alliance.
Un système de parenté, c'est une association complexe qui unit à la fois la manière dont on désigne ses parents, les parents, consanguins ou alliés, dans une culture donnée, les règles de filiation de cette même culture et les règles d'alliance. Alors il faudrait que j'explique peut-être un peu. Par appellation, on entend les termes par lesquels vous désignez les parents qui vous sont reliés par les lois de la biologie, enfin de l'hérédité. Et ces termes nous paraissent à nous, dans notre culture, tout au moins ceux que nous utilisons, nous paraissent biologiquement fondés. En fait, il faut savoir qu'ils sont arbitraires, tout comme sont arbitraires les termes utilisés par d'autres cultures primitives ou modernes. Pour prendre un exemple, chez nous, nous utilisons, d'une manière qui nous paraît logique et rationnelle, un terme simple qui est le terme de cousin. Et si vous parlez à quelqu'un de son cousin, ça évoque tout de suite quelque chose de précis pour lui. C'est un parent, un collatéral. Ce n'est pas en relation directe avec lui, il est en relation donc collatérale, et cela inclut un certain nombre de parents. Si on veut préciser quel est le type de parent, on sera obligé de faire appel à une chaîne descriptive. On pourra vous demander, d'accord, c'est votre cousin, mais quel cousin ? Vous répondrez par exemple que c'est le fils du frère de votre mère, ou le fils du frère de votre père. Mais le terme cousin en soi a un sens qui nous paraît logique.
Et voilà, Françoise Héritier, toujours dans les nuits magnétiques sur France Culture en 1978. Les règles de filiation, les règles de résidence laissent des signatures très claires dans la diversité génétique des populations humaines. Mais qu'en est-il justement des règles d'alliance, Raphaël Schex?
Ça, c'est effectivement un autre sujet sur lequel l'anthropologie génétique est en train de beaucoup contribuer, puisqu'il y a effectivement des populations qui encouragent les mariages entre cousins. Par exemple, dans beaucoup de sociétés arabes, c'est entre un homme et la fille du frère de son père, la cousine parallèle patrilatérale. Par exemple, au Pakistan, ça peut monter jusqu'à 30% de mariages entre cousins. Et dans les sociétés arabes d'Afrique du Nord, également du nord de l'Inde aussi, beaucoup de mariages entre cousins. Et à l'inverse, d'autres sociétés vont interdire ces mariages entre cousins, notamment par exemple en Europe. Au 11e, 12e, 13e siècle, l'Église avait instauré des règles et c'était interdit de se marier jusqu'à son cousin du 6e degré. Donc c'était même devenu difficile de se marier. Donc on voit que c'est très variable selon les cultures, très variable dans le temps aussi. Et grâce à l'ADN, on est en train de beaucoup progresser sur essayer de comprendre comment les populations humaines du passé s'unissaient, avec qui les individus faisaient des enfants. Et on s'aperçoit notamment, un des résultats que je trouve vraiment intéressant, c'est que dans les populations de chasseurs-cueilleurs du paléolithique, c'était donc des toutes petites populations. Ça, on le voit aussi avec la génétique, on peut estimer un peu la taille des populations. Mais on voit que malgré cela, déjà, les individus évitaient les apparentés proches et n'étaient pas consanguines comme les anthropologues du début ou de la première moitié d'une bonne partie du XXe siècle ont pu le penser.
Oui, ça c'était des idées reçues qui sont restées dans les esprits très longtemps et que l'anthropologie génétique et ses progrès viennent démonter finalement.
Tout à fait.
Et alors par contre concernant la question de savoir si des populations étaient plutôt polies ou monogames, ça c'est plus compliqué de trancher sur ces questions-là.
C'est plus compliqué puisque imaginez, vous arrivez dans un cimetière du néolithique et puis vous vous trouvez grâce à l'ADN que cet homme-là, il a eu des enfants avec ces trois femmes-là. Est-ce que c'était un homme polygame ou est-ce que c'était un homme qui successivement a eu trois épouses? Donc une monogamie sérielle, comme on le fait pas mal chez nous, en fait c'est très difficile de trancher.
Voilà, le plus difficile avec l'outil génétique, c'est de remonter l'histoire des filiations. Alors dans quelques instants, on plonge dans vos travaux, votre enquête, pour en savoir plus sur les causes de la chute de la diversité génétique du chromosome Y. Comment cet effondrement s'est-il déroulé il y a 5000 ans? Comment ça s'explique? On y vient.
Mon cœur est un bloc de résine où se projette en transparence un film. C'est sur l'écran de sa mémoire que se déroule ma bobine intime. Car c'est là, feutrine
L'ADN par John Trapp en direct sur France Culture, car nous parlons d'ADN en compagnie de notre invité du jour, Raphaël Scheix, anthropologue généticienne au CNRS et au MNHN. On vient de voir que vous étudiez la diversité génétique des populations humaines. Vos travaux visent à comprendre justement l'influence des facteurs culturels sur la diversité génétique et épigénétique humaine. Alors l'une des découvertes les plus marquantes des 10 dernières années en anthropologie génétique, c'est l'effondrement de la diversité génétique du chromosome Y. Cette diversité génétique paternelle, du chromosome Y, s'est globalement et brutalement effondrée il y a entre 3000 et 5000 ans, durant le néolithique, alors que la diversité maternelle est restée stable. Alors comment expliquer sa chute brutale? Pendant longtemps, l'hypothèse majeure, c'était celle de la violence et de la guerre, Raphaël Scheix.
Tout à fait. Donc ça, c'est un résultat qui a été publié en 2015 par des collègues estoniens qui ont montré, en utilisant donc l'ADN des gens d'aujourd'hui, donc de vous, de moi, de prenons une classe d'élèves, on peut avec l'ADN donc des gens d'aujourd'hui remonter le temps, puisque notre ADN nous a été transmis par nos parents, qui eux-mêmes l'ont reçu de leurs parents, qui eux-mêmes l'avaient reçu de leurs parents. Et on peut, grâce à cet ADN des gens d'aujourd'hui, estimer les niveaux de diversité génétique dans le passé. On peut le faire avec le chromosome Y en lignée paternelle et avec l'ADN mitochondrial en lignée maternelle. Et en faisant ça, ils se sont aperçus que, par exemple, si on prend l'ADN mitochondrial, il y a environ 45 000 ans, on voit que les niveaux de diversité commencent à augmenter. Ils augmentent de plus en plus. Et puis, il y a environ 10 000 ans, on voit une augmentation qui s'accélère avec ce qu'on appelle la transition néolithique, quand les populations de chasseurs-cueilleurs sont devenues des agriculteurs. Si on fait regarde maintenant le chromosome Y, ça commence pareil. Il y a environ 40-50 000 ans, on voit la diversité du chromosome Y qui commence à augmenter, qui augmente. Et il y a environ 5 000 ans, sur plusieurs continents, notamment le continent eurasiatique, la diversité s'effondre massivement, puis réaugmente plus récemment. Et c'est un effondrement qui est massif. C'est un effondrement de diversité génétique, mais qui est équivalent à pour une raison X ou Y, il ne restait à un moment donné plus qu'un homme pour 17 femmes. Donc c'est vraiment une disparition de la diversité génétique du chromosome Y qui est énorme. Donc ça a laissé scotcher un peu toute la profession. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et 3 ans plus tard, est paru dans Nature une étude de modélisation qui proposait qu'en fait, il y a environ 5000 ans, il y a eu donc des clans patrilinéaires qui se faisaient la guerre, donc des clans d'hommes qui se faisaient la guerre. Au sein d'un clan, donc les hommes portaient le même chromosome Y, hérité de leur ancêtre fondateur. Et si un clan arrive à éliminer l'autre clan, un des deux chromosomes Y disparaît. Et guerre après guerre, ça aurait fait comme ça chuter la diversité génétique. Et moi, je me rappelle avoir lu cette étude et m'être dit, mais d'abord, bon, ça veut dire qu'il y avait de la guerre partout. Quand on parle à nos amis archéologues, ils nous disent, on peut pas dire grand chose, mais il y a pas non plus.
Il y a pas de trace d'une époque extrêmement violente.
Voilà. Et moi, je me rappelais de mes résultats de thèse qui avaient montré que la diversité génétique des systèmes patrilinéaires pouvait vraiment être diminuée par rapport à un système équivalent non patrilinaire. Et donc, j'ai eu cette idée de s'interroger si une transition vers des systèmes patrilinaires il y a environ 5000 ans ne serait pas suffisante pour expliquer cette chute de la diversité génétique. Et c'est donc la thèse de Léa Guyon qui a permis en fait de tester cette hypothèse. Pendant 3 ans, Léa a modélisé des systèmes de parenté matrilinaires, bilatéraux et patrilinaires, et a montré effectivement qu'un certain type de patrilinarité semblable à celui qu'on a en Asie centrale, donc ces systèmes qui sont dits segmentaires, mènent à une diversité génétique du chromosome Y sur le long terme qui est en fait bien plus fort fortes que celles attendues avec l'hypothèse de la guerre, qu'on a aussi resimulée parce qu'on voulait avoir vraiment une estimation en quantité de diversité génétique de la différence entre ces deux scénarios. Et en fait, le système patrinaire, c'est vraiment une machine à faire disparaître la diversité génétique, parce que on a dans tous les systèmes patrinaires, c'est bien connu des anthropologues que certains clans vont être de statut un peu plus élevé, donc vont par exemple avoir un peu plus de terres, donc un peu plus de bétail. Je donne une hypothèse. Et donc ce bétail, par exemple, il est très important au moment des mariages. On doit payer des prix de la mariée pour pouvoir avoir le droit de ramener chez soi sa femme et d'acquérir le droit de rattacher les enfants de cette femme à son lignage. Et forcément, si vous avez plus de bétail, et parfois c'est très cher. Un Kazakh qui voulait se marier, traditionnellement, c'était environ 200 chevaux. Donc il faut les avoir. Et donc si vous les avez déjà, vous vous mariez un peu plus jeune, vous faites un peu plus d'enfants qui sont un peu mieux nourris, etc. Et donc, sur le long terme, en fait, vous avez une expansion d'un clan particulier, porteur d'un chromosome Y particulier, au détriment des autres. Et c'est donc notre proposition qu'à cette époque, il y a environ 5000 ans, donc c'est plutôt la fin du néolithique et sans doute le début de l'âge du bronze, en termes de timing. On aurait eu comme ça des groupes patrilinéaires d'hommes particulièrement puissants et qui auraient laissé plus des descendants, mais sans forcément massacrer les autres clans.
Donc vous tordez quand même le cou à la théorie dominante avec cette étude qui est parue dans la revue Nature Communication en 2024. Et cette étude, elle montre aussi que on pense que justement au moment de cette transition vers des systèmes patrilinéaires, ça a aggravé également la situation des femmes.
Oui, parce que tout à l'heure, je vous disais que les femmes dans les sociétés matrilinéaires, enfin, ce ne sont pas des systèmes matriarcaux. Pour autant, si on compare les normes de genre dans les systèmes patrilinéaires et matrilinéaires, on voit qu'en moyenne, les femmes ont tendance à mieux s'en sortir dans les systèmes matrilinéaires, avec des normes de genre plus favorables. Notamment, souvent, 70% de ces sociétés matrilinéaires sont matrilocales, donc le mari vient vivre chez sa femme, donc ça veut dire que la femme reste vivre avec ses sœurs, ses parents, ses cousines, ses tantes, donc garde tout son réseau au moment du mariage, donc un meilleur soutien social. Alors que dans un système patrilinéaire, patrilocal, elle part vivre loin de chez elle et c'est souvent associé à une perte de soutien social. Par ailleurs, dans le système matrilinaire, elles ont aussi tendance à plus hériter que dans les systèmes patrilinéaires et donc elles ont plus de pouvoir sur les ressources économiques. Et dans certaines sociétés, le fait d'avoir plus de pouvoir économique va faire qu'elles vont également, même si en général, dans la sphère sociopolitique, donc passer le seuil de la maison, les femmes n'ont pas le pouvoir. Dans certaines sociétés matrilinaires, comme par exemple les Iroquois ou les Hopis, du fait de ce pouvoir économique, les femmes vont pouvoir peser aussi dans la sphère sociopolitique et avoir une situation d'égalité avec les hommes. Mais on ne va pas parler de matriarcat, en tout cas pas dans le sens d'une domination des femmes sur les hommes dans la sphère sociopolitique. Et donc on pense que il y a 5000 ans, cette transition vers des systèmes patrilinéaires s'est sans doute accompagnée de normes de genre moins favorables aux femmes par rapport à leur situation préalable.
Oui, puis quitter son clan, on imagine aussi que ça s'accompagne d'un stress psychosocial accru qui peut avoir également des répercussions sur la santé. Mais alors, on rappelle que c'est pas pour autant l'origine là de la domination masculine, on sait qu'elle était présente avant le néolithique. À présent, l'anthropologie génétique, c'est un domaine qui va vite, très vite. Qu'est-ce qui vous anime actuellement ? On poursuit cet entretien.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous avons la joie de nous entretenir avec Raphaël Schex et nous faisons un peu d'anthropologie génétique. Raphaël Schex, vous avez été formé à l'École Normale Supérieure d'Ulm et à l'Université d'Oxford. Vous avez étudié donc la diversité génétique des populations humaines. Vos travaux visent donc à comprendre cette influence des facteurs culturels sur notre diversité génétique, épigénétique, humaine. Mais alors comment en êtes-vous arrivé à vous orienter dans ce domaine ?
C'est une bonne question. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance au travers de diverses rencontres. Parce qu'effectivement, dès mon adolescence, je me passionnais pour l'évolution humaine. Et je crois que c'est grâce à des vacances passées avec des amis de ma famille, notamment Bernard Victory, ex-maoïste de l'après 68 et linguiste au CNRS qui avait un talent incroyable pour nous raconter les dernières découvertes sur l'homme de Néandertal, et moi j'adorais. Et donc ça m'a donné sans doute le goût de l'évolution humaine. J'ai mis un peu de temps à trouver que c'était avec la génétique que je voulais travailler, et ça je pense que... Donc je suis allée d'abord faire un stage en Afrique du Sud, au musée de Pretoria, avec Francis Sacré, qui était le directeur de ce musée. Et je me suis rendu compte que c'était génial, la paléanthropologie, mais qu'il n'y avait pas beaucoup d'os et que c'était un peu une chasse gardée pour y accéder. Et en revenant à Paris, lors d'un stage en neurobiologie dans le laboratoire de Philippe Hacher, il m'avait dit, mais si tu veux étudier l'évolution humaine, c'est la génétique qu'il faut utiliser. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée, d'abord à Londres, puis au musée de l'Homme avec Evelyne, qui m'a ouvert les portes de son laboratoire et qui m'a mis dans les mains de ses données d'Asie centrale et qui m'a emmenée là-bas. Et voilà, et c'est aussi grâce à ça que j'ai pu effectivement mettre un pied dans la recherche, sachant que le questionnement sur la parenté était quelque chose aussi qui m'animait depuis longtemps. Je pense lié à des histoires familiales qu'on a tous, je me posais des questions, et donc c'est comme ça qu'à un moment j'ai raccroché parenté et évolution humaine.
C'était des questions que vous avez donc en vous depuis toujours, on peut dire presque. Alors, on a une question pour vous, une question mystère de notre invité mystère, un indice. On l'a déjà évoqué au cours de cet entretien, on l'écoute.
Salut Raphaël, j'espère que tu me reconnais. Avec mon accent, ce n'est pas trop difficile. Bon, comme tu sais, j'ai toujours admiré ta persévérance dans tes questionnements scientifiques, que je trouve super élégants et originaux. Mais j'ai une question aujourd'hui pour toi. Parmi tes recherches sur les liens entre l'organisation et les coutumes des sociétés et la génétique, quelle est la découverte que t'as plus marquée ou surprise? Et quel serait le projet de rêve que t'adorerais mener? À bientôt, je t'embrasse.
Et en fait, j'étais tellement contente d'écouter Louis que je ne sais pas s'il m'a demandé quel est parmi mes résultats ou parmi les résultats de la discipline.
Alors déjà, c'est Louis Quintana Mercy, hein, qui est biologiste, généticien des populations avec qui vous avez travaillé. Il vous pose en effet deux questions, des découvertes dans votre parcours. Déjà, c'était la première question, la découverte la plus marquante.
Ben moi,
C'est pas facile.
Il y en a plusieurs.
Comme choisir son enfant préféré, ça c'est.
C'est vrai que moi, cette histoire de décroissance de la diversité du chromosome Y, j'adore. Je suis particulièrement fière d'avoir proposé cette hypothèse avec notre équipe et de l'avoir testée. Enfin, le fait de pouvoir utiliser la génétique pour inférer des faits culturels passés, je trouve ça, même si c'est peut-être un peu chauvin, mais je suis moi-même impressionnée d'y arriver en fait. Et du coup, c'est sans doute un travail qui me tient énormément à cœur, sachant que j'ai travaillé dans d'autres domaines, on n'a pas le temps d'en parler, mais en épigénétique, et où j'ai aussi pris énormément de plaisir à travailler sur l'influence du stress et de pratiques de gestion du stress sur l'épigénome, et de voir que notre corps c'est quelque chose, enfin notre ADN n'est pas figé, mais c'est une double hélice qui est vivante, qui s'ouvre, qui se ferme en lien avec des petites marques chimiques qui se posent sur cette double hélice, et j'avais trouvé ça aussi fascinant de travailler là-dessus, ce qu'on appelle l'épigénétique.
Louis Quintana, merci, vous posez aussi la question des découvertes qui vous feraient rêver, ça l'a mené à venir.
Il y en a plusieurs. Déjà, j'ai un projet en épigénétique qui, malheureusement, je vous parlais tout à l'heure des difficultés d'obtention des permis éthiques qui est bloqué pour l'instant et je ne suis même pas sûre d'arriver à le développer, mais c'est sûr que si se débloquait, je serais ravie. Un autre projet qu'on est en train d'envisager, c'est un projet extrêmement interdisciplinaire avec des collègues qui sont à la fois donc généticiens mais aussi archéologues et anthropologues, et c'est de préciser encore plus l'histoire des systèmes de parenté dans notre passé, mais aussi de voir essayer d'utiliser des mesures archéologiques et issues de l'anthropologie biologique pour voir quelles ont été les conséquences pour les femmes en termes de normes de genre, en termes de santé. Et ça, c'est un projet qui me ferait très plaisir si on arrivait à le financer.
Parce qu'en effet, l'outil génétique, c'est encore un domaine émergent. Envisager un jour pouvoir retracer entièrement l'histoire des organisations sociales grâce à cet outil, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, c'est envisageable que grâce à la transdisciplinarité.
Tout à fait. C'est quelque chose qui est, à mon avis, en tout cas, très important parce que, en fait, je travaille sur les systèmes de parenté. Mais quand j'arrive au labo, il y a Sébastien Villotte qui travaille, lui, sur la division des tâches dans le passé. Il y a Aline Thomas qui travaille sur les différences de statut entre les hommes et les femmes. Il y a Marc Alassonnière-Tang, linguiste, qui travaille sur depuis quand les langues ont-elles un genre grammatical. Chacun travaille un peu dans son coin, mais l'évolution des processus genrés, que ce soit de parenté ou de division du travail ou de différence de statut ou d'inégalité alimentaire entre les femmes et les hommes, en fait, je pense qu'il y a un vrai travail pour mettre ça ensemble et essayer de raconter ça de manière plus interdisciplinaire.
Justement, quelles sont les grandes questions actuellement à l'étude pour améliorer nos connaissances justement des systèmes familiaux à travers le temps ?
Donc il y a deux grandes approches qu'on utilise. On peut, comme je vous le disais, soit partir de l'ADN actuel et on remonte le temps en échantillant la salive de gens d'aujourd'hui. Mais par définition, on ne remonte que aux ancêtres qui ont laissé des descendants. Il y a toute une partie beaucoup de populations qui n'ont pas laissé de descendants aujourd'hui. Forcément, si on part des gens d'aujourd'hui, on ne va pas accéder à ces populations-là. Et l'autre approche, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'ADN ancien. Donc là, on va dans des sépultures anciennes, du néolithique, de l'âge du bronze, de l'âge du fer. On étudie l'ADN des gens de ce cimetière, mais là encore, donc il y a des, je ne sais pas quelle proportion d'humains qui ont vécu sur cette terre ont été inhumés, mais je pense que c'est une petite partie. Donc il faut qu'ils aient été inhumés, il faut qu'on les retrouve. Donc encore une fois, c'est des données qui sont lacunaires, et donc je ne sais pas si on pourra vraiment raconter toute l'histoire des systèmes de parenté, puisque par définition, on a des données qui sont lacunaires. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de travail. J'aurais tendance à dire que d'ici, dans les 5 à 10 prochaines années, ça va bien booster en résultats pour mieux comprendre l'histoire de ces filiations et de ces règles d'alliance dont nous parlait aussi Françoise Héritier.
Vous avez hâte et espoir pour les 10 prochaines années dans les disciplines ?
Oui, je pense que, en tout cas sur la parenté qui est mon domaine, je pense que il y a encore 10 bonnes années de travail pour bien comprendre les... Et aussi, pour l'instant, on a des données d'ADN ancien principalement sur l'Europe. Là, c'est en train d'arriver sur l'Asie. Il y a pas mal de données qui sont en train de sortir. Mais c'est encore des données qui sont très lacunaires, très biaisées sur l'Europe. Il y a des régions du monde où je ne sais pas si on pourra en avoir beaucoup. Quand il fait chaud, l'ADN ne se conserve pas bien. Donc, il y a très peu de données, par exemple, sur l'Afrique en ADN ancien. Donc, voilà. Jusqu'où on arrivera à aller, je ne sais pas encore, mais je pense qu'il y a encore moyen de beaucoup progresser.
Ça, en effet, ça fait partie des limites de cet outil, en effet, sur l'ancienneté, avoir accès à de l'ADN très ancien, c'est une limite. En ce moment, en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que vraiment, vous êtes en train de monter un consortium pour essayer de mieux mettre en lien nos données de génome ancien avec les données archéologiques.
Bah, un consortium, oui, on est, on me parlait de rêves, donc moi je vous parle de mes rêves. On n'a pas encore l'argent, vous savez qu'il faut toujours trouver de l'argent. Donc on est en train d'y réfléchir avec différents collègues, Aline Thomas, Sébastien Bilotte, des collègues aussi à l'étranger, notamment Mehmet Sommel à Ankara et d'autres collègues. Ouais.
En tout cas, merci de nous avoir fait rêver. Merci de nous avoir fait aussi comprendre que les systèmes de parenté qui nous paraissent si naturels sont en fait des constructions sociales qui ont changé au cours de l'histoire et qu'ils ont eu des implications concrètes plus ou moins favorables pour les femmes. Un grand merci, Raphaël Schex.
Merci à vous.
Tout de suite, comme chaque jour, il est l'heure de retrouver Alexandra Delbo. Une bonne nouvelle de nouveau dans la chronique Avec Science. Contrairement aux idées reçues, une agriculture sans pesticides est techniquement possible et économiquement viable.
L'agriculture sans pesticides est-elle techniquement possible et économiquement viable ? C'est l'épineuse double question. Le principe « pas d'interdiction sans solution » a été inscrit dans le projet de loi d'orientation agricole l'année dernière. En clair, aucun produit phytosanitaire ne pourra être interdit sans solution techniquement efficace et économiquement viable. Il est assez difficile de juger de la portée juridique de ce principe, mais une chose est certaine, les effets des pesticides sur l'environnement, la biodiversité, diversité et la santé humaine ne font plus aucun doute. Et c'est pour proposer des solutions qu'a été mis en place le projet Réseau Pest. Jean-Noël Auberto est agronome et directeur de recherche à l'INRAE dans le laboratoire Agir à Toulouse.
Ben le projet a démarré en fait presque en même temps que le plan Ecophyto, qui est la politique nationale de réduction des produits phytopharmaceutiques. Donc l'idée, c'était d'imaginer des systèmes qui restent en agriculture conventionnelle, c'est-à-dire avec possibilité d'utiliser des engrais de synthèse et de mobiliser des opérations de travail du sol, mais avec un niveau de rupture très fort vis-à-vis de l'utilisation des pesticides, puisque là, l'idée, c'était d'en utiliser aucun. Alors ça semblait très ambitieux, puisqu'en fait, si vous faites du jardinage, vous savez que dès qu'on essaye de faire pousser une culture, on est confronté à la concurrence avec les plantes adventices, avec le développement de maladies, avec des attaques de ravageurs. Et donc l'idée, c'était d'imaginer des manières de faire qui limitent le développement de ce qu'on appelle les bio-agresseurs pour obtenir des rendements satisfaisants et puis une viabilité économique intéressante.
Il faut bien distinguer cette approche du bio. En agriculture biologique, les engrais de synthèse sont interdits. Ici, ils restaient autorisés. Et ce n'est pas non plus de l'agriculture de conservation des sols, car dans Réseau Pest, le labour était possible. Autrement dit, on explore ici une troisième, voire quatrième voie, une agriculture conventionnelle, mais sans aucun pesticide, même en traitement de semences. Pour tester cette agriculture en conditions réalistes, Réseau Pest est équipé de laboratoires à ciel ouvert. 9 systèmes de culture ont été créés aux quatre coins de la France, en gardant les espèces emblématiques des régions où elles se trouvent, et avec 4 objectifs et questions. Est-ce techniquement faisable, sous-entendu avec un système agricole actuel? Les rendements sont-ils satisfaisants? L'environnement est-il préservé? Et est-ce économiquement viable? Résultat de cette étude parue dans Plant Disease. Alors, ça dépend des années, des espèces cultivées et des lieux, mais oui, ça fonctionne.
Ça n'avait pas été du tout la catastrophe que certains nous promettaient au début, en disant si vous n'utilisez pas de pesticides, c'est simple, vous n'aurez pas de récolte et voilà, il ne se passera rien. Donc ça n'avait pas du tout été le cas. On a eu des rendements qui étaient satisfaisants, voire très satisfaisants. Et puis dans d'autres cas, on a eu des impasses techniques. Peut-être un des résultats qui a été le plus surprenant, c'était le site le plus au nord, au KS Trémons, en Picardie. Puisque là, en fait, on était sur des cultures industrielles, donc avec des espèces cultivées comme le haricot, la pomme de terre, la betterave sucrière. Donc ce sont des cultures qui sont réputées très consommatrices de produits phyto. On a réussi à obtenir des niveaux de rendement extrêmement satisfaisants, voire supérieurs à la moyenne régionale qui utilisait pas mal de produits phyto.
Bien sûr, il y a eu des difficultés sur certaines parcelles. Le réel point noir, ce sont les plantes adventices, qu'on appelle aussi les mauvaises herbes. Les nouvelles cultures, comme le pois chiche, n'ont pas non plus eu de rendement aussi satisfaisant, par manque de savoir-faire technique. Tout n'est donc pas parfait, et comme on l'a dit, cela peut être variable, mais côté économie, ça marche. Selon leurs calculs, 45% des systèmes de culture permettent de dégager entre 2 et 3 SMIC mensuels par exploitant agricole. Bien sûr, l'étude a ses limites. Elle est expérimentale, encore à petite échelle, mais ça prouve que ce n'est pas utopique et surtout, cela fournit une méthode de protection agro-écologique des cultures, une méthode qui combine prévention des bioagresseurs, beaucoup de biodiversité végétale et une bonne gestion de la santé des sols. Le passage à un vrai sans pesticides nécessitera une adaptation de toute la filière, sous l'impulsion évidemment des pouvoirs publics et à l'échelle nationale et européenne. La suite, c'est le projet Zéro Phyto qui a pris l'année dernière le relais du projet Réseau Pest.
Merci Alexandra pour votre chronique.
Comme chaque mercredi, on retrouve le fil science par Evelyne Meyer, professeure d'anthropologie génétique en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, et c'est l'Odyssée des humains.
Les grands-mères humaines sont un mystère de l'évolution. Ces super héroïnes sans cap qui défient les lois de la nature en survivant bien au-delà de leur période de reproduction détiennent peut-être la clé de notre succès en tant qu'espèce. L'inattendu, c'est que les femmes arrêtent de se reproduire bien avant leur décès. Nous, les humaines, vivons de nombreuses années au-delà de la ménopause. Or, cette survie est un paradoxe pour l'évolution. Survivre au-delà de la période de reproduction n'augmente pas notre nombre d'enfants et donc n'augmente pas notre capacité à transmettre des gènes. Autrement dit, aucun avantage pour la sélection naturelle. Par principe, selon l'évolution, une fois la période de reproduction terminée, tous les individus d'une espèce atteignent aussi leur limite de vie. C'est d'ailleurs ce que l'on retrouve dans quasiment tout le règne animal. Donc, chez les autres animaux, il existe des grands-mères, mais elles n'ont pas fini leur période de reproduction. Elles sont grand-mères et jeunes mamans en même temps. Des grands-mères qui ont fini de se reproduire sont très rares. Alors, comment expliquer que les femmes humaines survivent au-delà de la fin de la période de reproduction, que dans notre espèce, il y ait ces grands-mères ? Tout d'abord, chez les humains, contrairement à la majorité des autres mammifères, les petits, les enfants, sont longtemps dépendants des adultes avant d'être autonomes, au moins 15 voire 20 ans. Donc c'est avantageux pour l'évolution si les femmes survivent pour finir de s'occuper de leurs enfants déjà nés. Le fait qu'elles survivent au-delà de leur période de reproduction permet de finir d'élever leurs derniers enfants, d'assurer qu'ils survivent eux-mêmes le mieux possible. Mais ce n'est pas tout. Les grands-mères aussi aident à la survie de leurs petits-enfants. Elles peuvent les garder, leur transmettre des connaissances, de la nourriture. En effet, la survie ne dépend pas uniquement de la force, mais aussi de la connaissance. Et pour ça, vieillir est un atout. Par exemple, dans certaines populations humaines, ce sont les grands-mères qui savent le mieux où aller chercher les plants de manioc dans la forêt. Elles qui connaissent les champignons comestibles. Les orques sont l'une des rares autres espèces où l'on retrouve le même phénomène. Les femelles ont en moyenne leur dernier petit à 48 ans et elles peuvent survivre jusqu'à 90 ans. Là aussi, les grands-mères babysitent les plus jeunes, utilisent leur savoir écologique pour entraîner le groupe vers les bons spots quand la nourriture est rare. Chez les orques, comme chez les humains, les grands-mères sont la mémoire du groupe. Ainsi, dans l'évolution humaine, les femmes qui ont survécu après la ménopause ont mieux transmis leurs gènes via la survie de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ces gènes qui permettent une plus longue survie se sont donc répandus au fil des générations et c'est devenu une des caractéristiques de notre espèce, d'où les grands-mères exceptionnelles.
Merci Evelyne Meyer pour ce fil science et merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Maguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Alexandre Morales, Louise Ormond-Cégy. À la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Nicolas Leroulet. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.